14-18. Troisième partie, l'aventure de la paix. Une émission conçue par Frédéric et Dominique Gauthier et réalisée par Alain David.
« 10 mars, repos à Metz, distribution des vivres de route, boîte de conserve, sardines, 1 litre de vin, départ de Metz pour train spécial direction de Toul, Neufchâteau, ligne de Lyon, arrêt à la gare, ligne de Teil, arrivée à Montpellier le 13 au matin. Changement de train, direction Perpignan. Arrivé à 14h, dirigé sur la caserne de la Citadelle. 13 mars 1919, démobilisé au 53e d'infanterie, dépôt caserne de la Citadelle à Perpignan. Après tant de misère et souffrance, me voilà enfin dans la vie civile. Fini ce cauchemar. Du 4 août 1914 au 13 mars 1919, qui a duré 4 ans et 8 mois, 55 mois et 9 jours, un total de 1682 jours. Célestin Germain Rivière.
Enfin, le jour tant désiré arriva pour moi, le 14 février 1919. Ce jour-là, à Narbonne, après de multiples formalités imposées aux démobilisés et passage dans une série de bureaux, un adjudant rond de cuir me tendit la feuille de libération en me disant cette phrase attendue avec plus d'impatience que le Messie. « Allez, vous êtes libre. » J'étais libre après 54 mois d'esclavage. J'échappais enfin des griffes du militarisme à qui je voulais une haine farouche. Cette haine, je chercherai à l'inculquer à mes enfants, à mes amis, à mes proches. Je leur dirai que la patrie, la gloire, l'honneur militaire, les lauriers ne sont que des vains mots destinés à masquer ce que la guerre a d'effroyablement horrible, laid et cruel. Pour maintenir le moral au cours de cette guerre, pour la justifier, on a menti cyniquement en disant qu'on luttait uniquement pour le triomphe du droit et de la justice, qu'on n'était guidé par aucune ambition, aucune convoitise coloniale ou intérêts financiers et commerciaux. On a menti en nous disant qu'il fallait aller jusqu'au bout pour que ce soit la dernière des guerres. On nous a menti en disant que nous, les poilus, nous voulions la continuation de la guerre pour venger les morts, pour que nos sacrifices ne soient pas inutiles. On a menti. Mais je renonce à écrire tous les mensonges sortis de la bouche ou sous la plume de nos gouvernants ou journalistes. La victoire a tout fait oublier, tout absoudre. Il l'a fallait coûte que coûte à nos maîtres pour les sauver. Et pour l'avoir, ils auraient sacrifié toute la race, comme le disait le général de Castelnau. Et dans les villages, on parle déjà d'élever des monuments de gloire, d'apothéose aux victimes de la Grande Tuerie, à ceux, disent les patriotards, qui ont fait volontairement le sacrifice de leur vie, comme si les malheureux avaient pu choisir, faire différemment. Carnet de guerre, Louis Barthas, Tonnelier.
La France a été le seul pays qui a inondé son territoire de monuments aux morts après la guerre de 14-18. C'est une forme de religion funéraire et civique qui est particulière à la France. Ni le Royaume-Uni ni l'Allemagne n'ont pratiqué la même chose. Il y a des monuments aux morts, mais beaucoup moins. La France est tout à fait extraordinaire. Le moindre village a tenu à avoir son monument aux morts.
Alors, ce qui m'avait frappé le plus, c'est que c'était tous ces monuments qu'on a construits, les monuments. Au lendemain de la guerre, on a mis tout de suite des noms de tous les morts du village, ou là, comme ça. Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur tombeau, la foule vienne et prie. Vous voyez, ça m'est resté. Mais à l'époque, on les a mis souvent dans les intérieurs d'églises. C'était l'époque où tout le monde allait à l'église. Et ceux de la capelle sont juste à l'entrée du porche, de chaque côté du porche. Et il est venu une vague où tout le monde avait un monument à l'extérieur. Alors ils ont voulu avoir aussi un monument extérieur. Celui de la capelle se trouve maintenant en dehors de l'église, sur la droite, là en regardant le parvis. Pour Prévinquer, par exemple, les noms ne sont affichés qu'à l'intérieur de l'église. Alors c'est moi en tant que maire qui ai fait un monument extérieur pour pouvoir célébrer des cérémonies officielles.
La Salvatore Perales, à ses héros morts pour la France.
Auguste Allot, Joseph Allot, Firmin Albagnac, Pierre Albagnac, Alexis dit Julien, Albert Amiel, Firmin Amiel.
Rieux Perrault, aux morts glorieux.
Bastide Albert Elie, Bayol Alphonse, Bec Cyprien, Bec Ernest, Bedels Léon, Bérals Léon.
Tayrac, à ses enfants morts pour la patrie.
Delmas François, Frodé Alfred, Fraissiné Joseph, Frodé Joseph, Flotte Lucien.
La Capelle Blaise, à ses enfants morts pour la France.
Ernest Lagarrigue, Zéphirin Lagarrigue, Jules Lagarrigue, Sabin Laurent.
L'Escurjaoul, aux morts de la Grande Guerre.
Henri Blanc, Laurent Fraisse, Marius Matta, Joseph Durand, Joseph Pradine, Léon Blanc.
Prévinquière, à la mémoire des soldats morts pour la France.
Élie Falipou, Joachim Porcel, Élie Pézette, Albert Bessière, Prosper Bessière, André Orliac, Alfred Fraisse.
Poème de Jean-Louis Monoury. Elle a mis la nappe brodée qu'elle gardait pour la paix. Elle a mis le plus beau service pour fêter son invité. Face à face, elle a placé deux chaises pour le voir de tout près. Allumé une bougie pour adoucir son visage ridé. Mis sa robe la plus jolie pour qu'il lui enlève après. Elle a appelé joyeusement « André, André !» quand tout a été prêt. Puis elle s'est assise seule et elle a pleuré, 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 toute cette nuit d'été.
En 1916, Marcel Capi a publié « Une voix de femme dans la mêlée ». Demain ou après-demain, il faudra bien que la paix revienne. La nécessité sera encore plus implacable pour la femme. La maigre pension accordée aux veuves de soldats sera une goutte d'eau dans une mare. Et celles non mariées légalement, dont l'homme aura été tué, elles n'auront aucun droit. Et celles dont les maris reviendront infirmes, poitrinaires, perclus de rhumatisme. Et les autres qui auront perdu leur promis, leur père. Il va y avoir un nombre incalculable de femmes sans soutien et sans secours. Il faudra qu'elles mangent, cependant. Le courant qui pousse les masses féminines vers le travail sera plus fort que jamais. Les exploiteurs deviendront plus âpres. Les femmes, par la force des circonstances, seront lancées dans la bataille économique. Il leur faudra lutter pour conquérir leur pain. Ce sera dur. La grandeur, la noblesse, le stoïcisme, l'âme cornélienne de la française, tralala, ces imbécilités grandiloquentes ne dérobent pas la vérité. La foule des femmes de France est la proie de la plus vaste des exploitations et de la plus saignante des douleurs. Elle supporte ces terribles fardeaux avec héroïsme, dit-on. Hélas, on est bien obligé d'être héroïque quand on ne peut pas faire autrement.
l'organisation de l'Europe date principalement de 1418, avec l'éclatement de l'Empire austro-hongrois, qui était un gros pâté au centre de l'Europe, et qui a explosé en 1918, et qui est devenu, donc qui a formé plein de nouveaux pays qui sont des États-nations, enfin plus ou moins, hein. La Tchécoslovaquie, l'Autriche, la Hongrie, les républiques baltes, les terres de la Pologne, sans parler d'un morceau qui a enrichi la Roumanie, d'un autre morceau qui a enrichi la Yougoslavie. Principalement l'architecture actuelle de l'Europe date de 1418. Je crois qu'il y a une deuxième conséquence qui est la disparition des rentiers. Parce que la société française avant la guerre est une société où il y a un nombre non négligeable de gens qui vivent de leur rente. C'est fondé sur une monnaie qui est une monnaie stable depuis près d'un siècle et qui est fondée sur l'étalon or. Et ces gens, avec les troubles, les perturbations économiques et financières liées à la guerre, ils voient la valeur de leur rente fondre rapidement. Et donc, il y a une paupérisation des rentiers et leur disparition. Alors le phénomène a été sensible en France, il a été renversant en Allemagne. Les conséquences de 14-18, ça a été des bouleversements économiques tels qu'ils ont provoqué à retardement, mais provoqué quand même, l'effondrement du système international d'échange fondé sur l'étalon or. Mais ce qui est nouveau, c'est que comme les Américains, grâce à la guerre, étaient devenus les banquiers de l'Europe, et particulièrement de l'Europe vaincue, c'est-à-dire de l'Europe centrale, la crise américaine s'est transmise aux pays de l'Europe centrale, en particulier à l'Autriche et à l'Allemagne, avec les conséquences politiques que l'on connaît, puisque ça a favorisé le succès du nazisme en Allemagne.
La butte rouge, c'est son nom, le baptême se fit un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boira ce vin-là, boira le sang des copains. Sur cette butte-là, on n'y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Parce qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais, car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom, le baptême se fit un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. Filles et gars, doucement, y échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer, par leurs folles étreintes, qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers, j'ai entendu la nuit monter des plaintes, et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom, baptême se fit un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin.
Finalement, que reste-t-il de 14-18?
Pas grand-chose. Quelques médailles, c'est ce qui a été prisonnier ou en été des blessures. Un souvenir oral, parce que à cette époque-là, Le soldat qui était parti à la guerre avait laissé souvent une femme à la maison qui ne savait pas lire ni écrire.
Il nous reste dans tous les patelins que les monuments aux morts, quoi.
Qu'est-ce qu'il reste? Alors, on a un livre d'or à la mairie, donc avec tous les anciens combattants.
Nous, les anciens combattants, on a décidé donc de garder cette date, le 11 novembre, pour commémorer toutes les guerres. Pour nous, c'est la guerre qui a été la plus importante, pour nous, à nos yeux, quoi.
Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois 2 jours ou 3 sans y penser, et brusquement, je la revois, je la sens, je l'entends, je la subis encore. Et j'ai peur. Ce soir est la fin d'un beau jour de juillet. La plaine sous moi est devenue toute rousse. On va couper les blés. L'air, le ciel, la terre sont immobiles et calmes. 20 ans ont passé. Et depuis 20 ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavé de la guerre. L'horreur de ces 4 ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les survivants portent la marque. Écrit pacifiste Jean Giono. C'était 14-18. Troisième partie, l'aventure de la paix. Avec les interventions d'Isabelle Imbert et de Denis Trouche.